1.
9h-11h.
Wendy Bouchard. Soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez seulement, on va partager un art jusqu'à 11h, un art de plus en plus partagé justement, l'éloquence, l'envie de s'exprimer à l'oral, avec une question tout de suite de Mirato sur le hashtag Europe 1. Briller à l'oral, c'est parler très vite, sans articuler, et briller à l'écrit, qu'est-ce que c'est? Il y a tant de questions qui se posent, avec un engouement en tout cas, des jeunes de plus en plus fans des concours d'éloquence, de ces joutes verbales en public, de cet art oratoire, briller dans un texte, écrire un discours comme une plaidoirie, séduire une assemblée, emporter la foule. La retourner avec les codes des grands théoriciens. On va explorer ce sujet pendant une heure à l'occasion de la parution d'un ouvrage cette semaine, Briller à l'oral pour les nuls, de Charles Haroche, avocat et coach en prise de parole. Il est notre invité. Nous sommes réunis avec tous vos appels, si vous le souhaitez, ma chère Julie.
Au standard d'Europe 1, le 39-21.
9h-11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et bien sûr, on ne peut pas parler de l'art oratoire, de la fascination pour les mots qui parfois confinent à l'obsession et à la névrose. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Fabrice Lucchini. Sans l'entendre parler de son goût pour le verbe, c'était chez Thierry Ardisson. Écoutez.
Il y en a, ils veulent se faire des meufs, il y en a, ils veulent avoir des grosses bagnoles, il y en a qui veulent du pognon. Moi, je suis toujours été fasciné par ce que représentait une phrase. Ouais. N'importe laquelle. Une grande phrase, quand un écrivain a une dimension immense, tu te dis comment un acteur ne va pas entraver la beauté, l'innocence de cette phrase. Comment il va faire pour tout détruire? Comment il va aplatir? Alors, il y a un moyen. Soit il n'aplatit pas, il devient un vrai comédien, ou soit il essaye d'être à la hauteur où la phrase a été écrite. La grâce, c'est qu'il y a des génies. C'est ça la grâce. La grâce, c'est qu'il y a des mecs qui s'appellent Baudelaire, La Fontaine, et qui ont capté avec une certitude, une intuition et une ciselure des mots tellement parfaites des sentiments du cœur humain. Et que nous pouvons nous reconnaître.
Et voilà, comment parler d'éloquence sans évoquer Monsieur Lucchini? Bonjour Charles Haroche.
Bonjour.
Je vous vois prendre des notes déjà et inspiré par cette diatribe.
Bah, cette phrase est absolument superbe, c'est-à-dire qu'effectivement il y a tout. L'idée de la grande phrase et la grande phrase qui peut réussir à retourner les sentiments humains. Parce que s'il y a vraiment une introduction à faire sur la parole, c'est que la parole a un côté vraiment magique. Et la magie, c'est que des mots, parfois, lorsqu'ils sont bien amenés, lorsqu'ils sont bien prononcés, peuvent réussir à provoquer suffisamment de bouleversements dans vos petits neurones qui vous font changer d'avis. Ils peuvent vous faire changer d'avis sur une position, de la même manière qu'une musique peut vous faire pleurer, qu'un film peut vous faire rire. La parole, ça peut vous permettre de convaincre, et ça, c'est quand même déjà suffisamment génial en soi.
Oh bah, c'est tout l'art d'une plaidoirie, et l'avocat que vous êtes ne peut pas me dire autre chose, évidemment, mais l'art aussi de capter l'attention du public, de cristalliser toute l'attention d'une assemblée sur une seule personne. Exactement. Comme Lucchini, comme d'autres grands orateurs, ça c'est fascinant, et ça c'est un don quand même.
Exactement, c'est concentrer les regards sur une personne, c'est un sentiment extraordinaire. Je me souviens, quand j'étais un jeune garçon, je voyais à la télé, alors c'était il y a longtemps quand même, c'était déjà vers 95,
oui.
C'est la première fois que j'ai suivi une élection présidentielle et je voyais les candidats où il y avait des gens dans une salle de meeting qui regardaient une seule personne et je me disais mais comment ils font? Et à leur place, je serais terrorisé.
Oui.
Et effectivement, c'est cette fascination que l'on a tous qui provoque aussi la peur de parler en public, parce qu'il faut admettre que s'exposer devant le regard des gens, c'est assez difficile, mais c'est quand même ça qui rend l'exercice beau.
Alors on va voir qu'il y a quand même un peu d'inné dans tout cela, et puis qu'on peut aussi acquérir les codes pour bien briller à l'oral, avec des codes de l'art oratoire qui ont été développés dès l'Antiquité par les grands théoriciens. On a Aristote, on a Cicéron, qui considéraient un peu un triptyque. Un discours doit plaire, doit instruire et doit émouvoir. Mmh. C'est vraiment la base aussi pour vous aujourd'hui dans votre formation?
C'est la base. De toute façon, je n'ai pas la prétention de contredire Cicéron ou Aristote, mais de toute façon, c'est ça. C'est instruire, plaire, émouvoir. Mmh. Un orateur, c'est trois choses en réalité. Ça, c'est ce que disait Aristote. C'est la capacité à convaincre par la raison. Donc, c'est ce qu'on appelait le logos. La capacité à toucher au sentiment de l'auditoire. C'est ce qu'on appelle le pathos. Et à prouver surtout sa crédibilité.
Oui.
C'est l'éthos. Et ça, c'est la base.
La vocation de l'avocat, elle naît en partie de cela, pour vous aussi, emportée par des mots et comprendre ce que l'autre ressent, ce que celui qu'on défend ressent.
Oui, alors effectivement, c'est clair que chez l'avocat, et notamment chez l'avocat pénaliste, il y a une partie décisive, c'est se mettre à la place de la personne qui ne peut pas parler, c'est ça, avocat, c'est parler pour, et justement traduire ses actes aussi en sentiments et tenter de toucher un jury, tenter de toucher le juge pour réussir à le faire changer d'avis. Si vous voulez, parfois, quand les faits sont têtus et qu'il n'y a pas d'autre possibilité en théorie que la condamnation, c'est là où l'avocat entre en scène et doit expliquer qu'au-delà de la loi des hommes, il y a aussi des éléments plus hauts.
Bien sûr, on recevait il y a quelques semaines, pour parler des plaidoiries, Maître Leclerc qui disait « Je veux faire aimer l'accusé ou au moins éviter qu'on le déteste, c'est ainsi que je deviens l'accusé lui-même. » Plaider, c'est souvent être amené à défendre en effet l'indéfendable et il faut trouver les mots pour ça, à faire accepter l'inacceptable aussi. On va s'interroger sur l'art oratoire, sur l'engouement pour l'éloquence d'un certain nombre de jeunes et vous les côtoyez, vous les connaissez bien Charles Laroche parce que vous êtes formateur au concours Éloquentia, on entendra certains d'entre eux. Et puis vous avez été coach pour l'émission Le Grand Oral sur France 2 et nous serons dans quelques instants avec le lauréat de l'année, Bill, 25 ans, dont vous réécouterez un petit extrait justement de son discours. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Comment expliquer l'engouement actuel des jeunes en France pour les concours d'éloquence? Mais il faut dire qu'on est en retard par rapport aux États-Unis par exemple. Parce que dès l'école, on apprend à être à l'aise à l'oral.
C'est certain.
On incite les jeunes à s'exprimer. Alors qu'en France, c'est plutôt l'écrit, vous disiez ?
On est très en retard par rapport aux Anglais et par rapport aux Américains, où effectivement, dès l'âge de 5 ans, il y a des cours de show and tell. Donc chaque élève vient avec un objet. Par exemple, ça c'est mon livre d'Harry Potter. Voilà ce qu'il m'évoque pour moi, pourquoi je l'aime, pourquoi je le trouve très bien. Et il y a dès l'âge de 5 ans aussi, dans tous les auditoriums, tout chaque semaine, un élève s'exprime devant une très grande assemblée, devant leurs parents, devant leurs professeurs. Et ils sont initiés à ça. Nous n'avons pas ça du tout. Nous, on a la culture de l'écrit, on a la culture des connaissances scientifiques,
plus académique
aussi. Ce qui est très bien.
Oui, mais l'oral nous terrorise et nous intimide.
Exactement.
L'école est intimidante.
Ça arrive à ce moment où le premier oral que l'on fait, c'est l'oral du bac français, où en réalité, soyons honnêtes, on apprend nos fiches par cœur et on apprend les notions des grands littéraires sans même savoir à quoi ça correspond. Ouais. Et ensuite, ce sont des oraux de connaissances et on arrive au premier oral de notre vie qui est l'entretien d'embauche, où on doit apparaître sympathique, on doit réussir à se vendre et là, ça devient difficile.
Mais bien sûr, Charles Laroche, vous êtes avocat et coach en prise de parole. Combien de fois a-t-on entendu cette phrase ? Moi, je ne suis pas à l'aise à l'oral. L'écrit, ça va, mais l'oral, ça ne va pas. Et vous citez cette phrase en introduction de votre ouvrage qui sort aujourd'hui. « Briller à l'oral pour les nuls ». Et là, ça, c'est formidable parce qu'il y a tout un canevas. « Vous avez la parole. Chez beaucoup d'entre nous, cette petite phrase provoque une appréhension particulière. Vais-je trouver les mots ? Vais-je réussir à me faire comprendre ? Et surtout, à convaincre ? Nous sommes nombreux à ressasser sans cesse ces questions avant d'oser nous lancer. » Alors, quand on parle d'éloquence, c'est pas pédant. Quand on parle de l'art oratoire, c'est pas pédant, c'est pour nous aider finalement dans tous les moments un peu clés de notre vie, y compris une déclaration d'amour d'ailleurs.
Je pense à justement, pour une déclaration d'amour.
Rappelez-vous Cyrano et Tristan. Oui.
Si vous voulez, quand on est dans une entreprise, dans un pot de départ, il y a toujours ce moment gênant où quelqu'un dit un discours, et celui qui doit le faire regarde ses pieds, et c'est ce qui est presque pire, tous les autres regardent leurs pieds aussi.
Ouais.
C'est-à-dire que les gens ne sont pas à l'aise pour exprimer leurs sentiments, pour exprimer leurs émotions, et pourtant c'est quand même terriblement nécessaire. Que ce soit dans le milieu professionnel, dans la vie personnelle, on est tous confrontés à un moment ou à un autre à la parole. Et cette peur de parler en public est manifestement une peur très angoissante, puisque de nombreuses études ont montré que c'était l'une des pires peurs affrontées chez les gens, même avant la mort.
Alors, il y a un manuel, ça c'est possible déjà de suivre un petit peu les conseils que vous nous donnez dans ce livre édition First. Il y a aussi l'expérience, évidemment. Trouver les mots, pour toucher, pour convaincre dans la personnalité aussi d'une plaidoirie, c'est manifeste. J'aurais que vous écoutiez Jamais. Jamais, il est finaliste du concours Éloquentia, pour lequel vous êtes formateur. Et il a été rencontré par nos confrères du site Brut, écoutez-le.
Le fait que ce soit des concours accessibles pour nous les jeunes, je pense que c'est quelque chose de très important, parce que si on regarde bien les politiciens, les avocats, quasiment toutes les personnes qui gèrent ce monde-là, ce sont des personnes qui savent bien parler. Je dis pas que j'ai envie d'être une personne qui veut... Non, loin de là. Mais je pense qu'on a beaucoup à gagner de s'exprimer en public.
Impressionnant Jamais, hein. Je vous recommande d'aller voir sa prestation sur internet.
C'est
Jamais,
un garçon
donc,
que je connais très bien et qui humainement est aussi quelqu'un d'exceptionnel, donc vraiment allez-y, allez le voir.
Et il dit des choses importantes, hein. Ceux qui savent manier la parole ont déjà gagné la moitié des points dans l'opinion publique.
Exactement, exactement. Il y a un magnétisme dans la parole, il ne faut pas le sous-estimer et ce n'est pas, enfin il y a des gens qui sont naturellement doués évidemment et qui sont charismatiques, mais ça s'apprend et même quelque part j'ai envie de dire que quand on sait qu'une personne est timide et que finalement elle ose se dresser s'adresser pour prendre la parole, il y a un lien de sympathie évident qui se fait avec lui.
Ça s'apprend même quand on n'a pas beaucoup de vocabulaire.
Exactement. Alors, effectivement, le vocabulaire, c'est tout de même mieux d'en avoir.
Bien sûr, mais
je recommande
aux
gens de lire.
Exactement.
Et d'avoir cette culture, cette appétence pour les vocabulaires. Mais si on a peu de mots, il suffit de bien les choisir pour être terriblement convaincant. Et si on incarne un message, là, c'est gagné.
Nous sommes avec Bill au Standard Europe 1. Bonjour Bill.
Bonjour.
Bill François, étudiant en thèse de physique, premier vainqueur de cette émission que vous avez peut-être suivi, chers amis, le Grand Oral de France 2. Dans un petit instant, je garde un peu de suspense, Bill, on écoutera un extrait de ce discours, de cette déclaration d'amour à la France. Comme souvent, pour vous, il a fallu un déclic pour que vous participiez à ce concours et vous le devez à une prof.
Oui, tout à fait, à une prof d'anglais. En fait, j'ai commencé les concours d'éloquence grâce à l'anglais. Et ça peut paraître bizarre, c'était un cours d'anglais où on faisait un petit tournoi de débat en anglais. Et en fait, c'est beaucoup plus facile en anglais quand on est face à des Français.
Ah oui?
Parce que le public est seulement content d'arriver à comprendre ce qu'on raconte. Et donc, il suffit de faire une blague pas très drôle pour qu'il soit juste très fier de la comprendre et que tout le monde rigole.
Oui, mais on parlait de la différence de culture avec les anglo-saxons et notre culture de l'écrit. Vous, c'est bien que voilà, vous y soyez allé par l'anglais. À quoi ça sert pour vous d'être éloquent, Bill? Si vous vous sentez être éloquent aujourd'hui, d'ailleurs.
Ça dépend dans quel contexte, hein. C'est très différent quand on est en public de quand on est en privé, hein, parce que en public, déjà, le public ne vous répond pas, mais aussi, il est forcé de vous écouter. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, notamment en sciences, je trouve que ça sert beaucoup. Pour la pédagogie, comme pour présenter des résultats de recherche, des choses comme ça, c'est complètement négligé dans notre culture en France, effectivement. Mais du coup, dès qu'on a un petit peu d'éloquence, ça marche beaucoup mieux.
Pour toutes les étapes importantes de la vie, pour mieux se connaître aussi, vous diriez cela ?
Pour, en tout cas, mieux comprendre certaines idées qu'on pensait avoir comprises, mais le fait de les formuler les fait comprendre différemment et s'ouvrir l'esprit sur les points de vue opposés aux nôtres, souvent.
Oui. Si je pose la question sur le mieux se connaître, Charles Laroche, c'est qu'on a le sentiment que quand même, pour être un bon orateur, il faut avoir une certaine confiance en soi.
Il faut avoir confiance en soi, il faut faire une certaine part d'introspection. Il faut aussi se connaître un peu sur son corps, sur la gestion des gestes. Et pour la confiance en soi, le meilleur moyen, c'est de se lancer et de partir du principe, ce qui est relativement vrai, c'est que le public avec lequel on parle sera toujours bienveillant, quelque part.
Ah oui ?
Oui, clairement. C'est-à-dire, évidemment, il y aura des publics peut-être plus hostiles que d'autres, mais en tout cas, même quand on est face à un adversaire, on a toujours cette part de nous-mêmes qui nous dit « il est quand même courageux de se lever pour prendre la parole ». Même un adversaire politique, on peut lui reconnaître quand même une certaine qualité lorsqu'il se dresse pour défendre son point de vue. Et souvent, c'est cette phrase « bon, je respecte quand même ton courage de te lever, voilà. »
Ouais, donc il faut se galvaniser en sachant que l'autre quand même respecte ou en tout cas écoute. Charles Laroche et Bill, vous êtes avec nous. Bill, on va entendre un extrait juste après la pause de votre discours à vous sur la France et on parlera de ces différents programmes d'expression publique, comment on allie aussi les mots à la gestuelle, vous l'évoquez Charles Laroche, comportement physique vraiment de l'expression. À tout de suite avec Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Europe 1. On retrouve Wendy Bouchard et son invité Charles Laroche qui est avocat, auteur de Briller à l'oral pour les nuls qui paraît aujourd'hui aux éditions First. Il a aussi été coach de l'émission Le Grand Oral diffusée en février sur France 2 qui était animée par Laurent Ruquier dont le grand gagnant est en ligne avec nous. Il s'appelle Bill, étudiant en thèse de physique de 25 ans. C'est donc lui qui a remporté ce concours. Extrait de cette déclaration d'amour à la France. Écoutez Bill.
Et comme nous les Français, on est timide, on n'ose pas te le dire, mais cette façon dont tu maries l'inutile au sublime sans jamais te prendre au sérieux, ça te rend belle et c'est pour ça qu'on t'aime. C'est écouter France Gall à Paris en bagnole ou le chant des cigales au pays de Pagnol. C'est ta Corse en montagne et tes vins bourguignons, les fest-noces de Bretagne et le pont d'Avignon. Et ta langue, partagée par-delà les frontières, de Québec à Alger, on peut aimer ces airs. Douce, comme au réveil un pot de confiture, France, vrai Père Noël, qui serait pas une ordure, tu essayes d'apporter de manière équitable la joie aux petits princes autant qu'aux misérables. Chacun sous ton regard dort sur ses deux oreilles, car même dans le brouillard et la nuit, Simone veille. »
ça c'est beau. Bill François, extrait.
Il a réussi à placer Aimé Césaire, et Simone Veil. Et puis non, il y en a eu d'autres.
Pas mal, hein. Pagnol notamment, Le Petit Prince. Voilà, extrait de ces 3 minutes 30 de déclaration d'amour à la France. Vous vous revoyez encore sur cette scène à déclamer Bill avec la boule au ventre tout de même.
Oui, je me souviens, c'était un super bon moment, c'est inoubliable.
Et ça vous donne envie de refaire, de recommencer avec ces concours d'éloquence qui SM un peu partout en France?
Ah oui, oui, tout à fait. Mais les concours d'éloquence, j'en ai fait beaucoup. Celui de la télé était exceptionnel parce qu'il y avait des gens de partout, alors que d'habitude, c'est surtout universitaire. Donc, c'était vraiment très riche. Mais maintenant, j'aimerais essayer différents styles et du spectacle.
Ah bah voilà, bah voilà. Comment peuvent naître aussi les vocations. Merci Bill pour votre petit coup de fil. Et voilà, on était contents d'en réentendre un extrait de cette déclaration d'amour.
Merci
beaucoup. Charles Laroche, comment aujourd'hui on divise son temps entre un métier avocat et une passion, la formation pour l'éloquence? Il y en a un qui prend le pas sur l'autre là, en ce
moment ? Il y en a un qui est en train de prendre le pas sur l'autre, oui, effectivement. Ouais. C'est clairement cette passion pour les concours d'éloquence. S'il y a un conseil que je peux donner aux auditeurs, c'est allez-y, courez voir les concours d'éloquence et essayez d'y participer.
Il y en a un peu régulièrement.
Il y en a partout, il y en a beaucoup. Évidemment, il y a Eloquentia, mais il y en a d'autres.
C'est pas la Ligue d'impro, hein. Ce sont des concours d'éloquence,
c'est
un peu différent.
Un concours d'éloquence, ce n'est pas un métier, ce n'est pas un travail d'acteur, ce n'est pas un travail d'improvisation, c'est vraiment un travail de structure, de parole, d'un message qu'on doit transmettre à partir d'un sujet qu'on vous donne.
D'accord.
Et c'est une expérience personnelle, mais sur le développement aussi et sur les rencontres qu'on peut y faire, c'est magnifique.
Bien sûr, et on peut lire sa déclaration ou il faut l'avoir apprise par cœur ou improviser un discours?
Alors, c'est la grande question, ça. Ah. Est-ce qu'on doit parler sans notes? Est-ce qu'on doit improviser? Tout est possible. On peut évidemment lire avec des notes. Moi, personnellement, je n'arrive pas. J'essaye, mais c'est une qualité extraordinaire de réussir à parler en improvisation. Mais si vous voulez faire une improvisation, dans ce cas-là, le conseil que je vous donne tout de suite, c'est ayez toujours une idée de votre début et de la fin. Il faut toujours savoir, c'est ça la difficulté de l'improvisation, c'est quand on se lance, ça commence bien, puis après on ne sait pas trop où on va aller.
C'est ça, il faut un plan dans sa tête.
Il faut un plan dans sa tête. Là, c'est ce que disait Churchill, c'est un discours improvisé, a été travaillé 4 ou 5 fois.
Bien sûr.
Il faut toujours connaître sa chute et surtout avoir une interaction avec le public pour essayer de voir quand est-ce qu'il commence à s'ennuyer, quand est-ce qu'il commence à baisser son attention. C'est à vous de rattraper son attention
en
avec
modulant
les regards,
sa voix,
la modulation
exemple,
de la voix.
Est-ce qu'il faut s'appuyer sur une phrase qui résume, une phrase un peu choc, une sorte de slogan qui permet de ponctuer aussi le
évidemment
discours.
Réfléchisse.
Moi président
ça c'est la puissance de l'ANAF,
ça c'est une clé incroyable,
c'est la puissance de l'ANAF. Prenez n'importe quelle des présidentielles, vous pouvez la résumer à une phrase. Un programme, ça peut tenir en une page, un paragraphe ou une phrase. Et la punchline, elle existe aussi en politique, et vous savez qui a dit instinctivement j'ai fait un rêve, mais qui a dit les pudeurs de gazelle, qui a dit Paris libéré, Paris martyrisé,
qui a dit les pudeurs de gazelle,
Jean-Luc Mélenchon dans le débat.
Merci,
ça c'est la culture de la petite blague, c'est l'utilisation de l'humour pour reprendre les électeurs de son côté. Ça marche terriblement
avec
bien.
Avec théoriquement un temps pour ces concours d'éloquence qui vous est imparti, c'est une prestation qui dure combien de temps?
Les élèves doivent parler 8 minutes.
Oh, ça paraît énorme comme ça. Se jeter comme ça dans le grand pain pendant 8 minutes, s'en fiche, en effet, ça peut effrayer certains.
Croyez-moi,
quand on est en face,
ça passe vite. Les candidats peuvent avoir leurs notes, ça n'y a aucun problème. Parce que l'impératif aussi, c'est un travail de réflexion pour traiter le sujet qui leur est donné. Par exemple, on peut leur donner des sujets comme « Le passé est-il un poids ?»,« Le mieux est-il l'ennemi du bien ?» Vous avez toute la latitude pour écrire votre discours et on passe un très bon moment.
Ce sont des sujets de philo au bac, là, ce que vous dites.
Oui.
Pas tout le temps. Il y a aussi des sujets un peu humoristiques qui peuvent tomber de temps en
temps.
Par
exemple, vous avez une idée en tête, là.
Alors, une idée en tête, est-ce que nous sommes en panne d'essence, par exemple, pour réfléchir à tous les termes sur l'essence, l'essence matérielle, l'essence philosophique, la spiritualité ou l'essence, le pétrole.
Et on peut se laisser aller à beaucoup de choses, c'est-à-dire quand on a un public devant soi, est-ce qu'on peut prendre à partie quelqu'un, appuyer son regard, essayer de trouver un allié, éventuellement dans une assemblée
qui permette. C'est qu'il le faut. Il faut utiliser le regard pour capter l'attention, pour réussir à toucher le cœur du public. On peut prendre à partie quelqu'un, on peut essayer de prendre une personne à témoin, ça peut être une arme qu'on peut utiliser. Le mieux est quand même encore de parler à toute une assemblée.
Oui, mais c'est ce que doivent faire les hommes politiques ou les femmes politiques dans leur discours. Hein.
Exactement.
Et là, on entendra notamment un extrait d'André Malraux qui fait entrer au Panthéon un autre grand nom de la culture française. C'est quelque chose et c'est resté dans les mémoires. À tout de suite avec Bouchard Laroche et avec cet ouvrage « Briller à l'oral pour les nuls » qui sort aujourd'hui aux éditions First. Construire une argumentation, maîtriser le langage du corps, prendre la parole aussi en toutes circonstances. Vous nous guidez bien dans ces apprentissages. À tout de suite.
Être brillant à l'oral. Pourquoi les jeunes se passionnent-ils pour l'éloquence ? Enfin, on a envie de dire.
Oui, qu'est-ce que cela signifie dans la vie quotidienne aussi ? On parlait des entretiens d'embauche, au premier grand entretien d'une vie professionnelle avec qui a été jalonné de peu d'expérience en général. Alors Caro, sur Twitter, hashtag Europe 1, a raison de nous préciser que maintenant, Charles Laroche, il existe une petite épreuve d'oral au brevet.
Tout à fait. Depuis juin 2018, les élèves de 3e passent une épreuve d'oral et ceux qui viennent de rentrer en seconde auront la joie de découvrir le grand oral du baccalauréat. Ça prouve quand même que les choses évoluent dans le bon sens.
Oui.
C'est-à-dire que l'éducation nationale a compris qu'il fallait absolument aider les élèves à se construire, à devenir des orateurs, parce qu'il faut, et c'est ce que disait Billy qui est très important, il faut arrêter d'opposer l'oral et l'écrit. Quand on est meilleur à l'oral, j'en suis persuadé, on devient meilleur à l'écrit.
Oui, et regardez tous ces jeunes qui ont profité des associations culturelles dans leur collège et dans leur lycée pour faire du théâtre, pour faire des comédies musicales, les plus timides qui sont sortis justement de leur inhibition et qui sont devenus incroyablement
les plus timides,
confiants.
Justement.
Oui.
Parce qu'ils comprennent en fait le poids, la difficulté qu'on peut avoir de parler en public. Et ils attachent à leurs paroles vraiment un amour sincère. Donc, c'est les plus timides souvent qui s'en sortent le mieux.
Le grand oral du bac, le vrai grand oral, aura lieu maintenant pour la session prochaine. Hein, pas en juin là, mais la session d'après.
Pour les élèves qui sont entrés en seconde cette année, ils le passeront en terminale, donc juin 2021.
D'accord. Donc là, on parle des jeunes. Mais est-ce qu'on peut devenir éloquent et apprendre à être éloquent à tout âge de la vie ? Parce qu'il y a beaucoup qui mettent aussi en question leur autorité, qui disent « je ne suis pas assez convaincant dans ma propre famille aussi peut-être et... ».
Alors, il y a une chose à proscrire absolument, c'est ne jamais se délégitimer. Légitimé. On est tous légitimes pour prendre la parole. On a un corps, on a une voix, on peut s'exprimer. On peut tout travailler. C'est comme n'importe quel art, c'est comme le piano, c'est comme la danse. On peut réussir à apprendre des techniques. Certaines personnes auront forcément un don, mais tous travaillent. Et moi, je suis sûr que si je me mets à un piano et que je travaille 3 heures par jour, d'ici un petit moment, je vais quand même réussir à jouer quelque chose. C'est pareil pour la parole. On peut structurer, on peut apprendre à gérer les idées, on peut apprendre à se lancer, à maîtriser sa voix. Très important. Et on peut réussir à acquérir des capacités pour vous rendre convaincant.
Avec aussi un code vestimentaire, un code gestuel qui va appuyer votre oralité. C'est important, hein, à ne pas négliger.
Alors les vêtements, c'est très drôle parce que même les grands orateurs comme Obama ont pu se faire piéger. Un jour, Obama était venu avec un costume gris, taupe, pas très joli, lors d'une conférence de presse. Et la presse a uniquement relevé cet élément et pas du tout.
Les autres étaient habillés en noir. Hein,
voilà, les autres étaient exactement. C'est-à-dire que tout le monde s'est focalisé sur cet élément. Et pas du tout les annonces sur la Syrie, l'Ukraine, la Russie. Et vous voyez comment parfois un petit élément déclencheur peut vous faire oublier. La gestuelle aussi. Pensez au débat de l'entre-deux-tours. Quand Marine Le Pen commence à faire des vagues avec sa main, les gens déconnectent et regardent uniquement ce moment un peu délirant, hors du temps, et ne s'intéressent plus du tout au fond.
Et l'éloquence, pourtant, est une qualité essentielle chez un homme ou chez une femme politique, qu'on fait qu'on est séduit, embobiné, parfois trompé, mais souvent ému. C'est cela qu'on va entendre tout de suite avec un magnifique orateur, André Malraux. Écoutez cet extrait.
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit.
Ça glace encore, c'est incroyable.
On se souvient tous de la première phrase, mais sur la durée, écoutez
c'est,
ça.
Mais ce n'est qu'un extrait, hein. C'est superbe. C'est un discours d'anthologie, Charles Laroche.
Je conseille à tous les étudiants, à tout le monde d'ailleurs, foncer vers l'INA et regarder le discours en entier. Et parce qu'il y a tout. Et ici, sur ce passage très particulier, c'est ce qu'on appelle, je vais faire un petit point technique, c'est dans la péroraison, c'est-à-dire la phase finale qui fait monter en émotion, on a la puissance de l'évocation. Quand Malraux évoque tous les martyrs de la résistance, à travers ce récit, on comprend que ce n'est pas que Jean Moulin qui est entré en Panthéon, c'est tous les héros. Ce sont tous les héros de la résistance. Et ça, c'est magnifique.
Entre ici Jean Moulin, c'est le début du discours ou c'est en cours ?
C'est le début de la péroraison.
Ah oui,
c'est
ça. Le discours
alors,
est beaucoup plus long. Hein.
Le discours
la péroraison, comme le discours est plus long avant.
Qu'est-ce que c'est qu'une péroraison ?
La péroraison, c'est, si vous voulez, c'est le feu final de l'orateur. C'est-à-dire, d'accord, c'est le moment donné où on comprend dans la voix, dans les gestes et dans le regard, que le discours va bientôt prendre fin. Et là, ici, c'est pas la fin même du discours. La fin, c'est une formule magnifique où il appelle à la jeunesse de France, on est 20 ans après la fin de la guerre, à penser à cet homme, parce que cet homme incarne le visage de la France. Mmh. C'est la fameuse, on pourrait dire aujourd'hui que c'est la punchline finale, ouais, qui fait que le discours reste dans la mémoire.
Mais c'est magnifique et ça tient aussi quand même à sa voix incroyable, chevrotante, émue, chargée, quoi, chargée aussi de toute son écriture. Malraux, c'était pas n'importe qui.
C'est des voix d'orateurs à l'ancienne, parce qu'ils sont nés dans des époques où il n'y avait pas de micro, donc il fallait forcer sur sa voix, ce qui explique un peu...
C'est pour ça que De Gaulle
parle
comme ça aussi.
Exactement, ouais, ça explique aussi cette voix un peu chevrotante. Mmh. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on voit que des discours peuvent marquer l'histoire. Ce qui est très intéressant quand on apprend l'histoire de France, et ça, je m'adresse aux élèves qui sont par exemple en terminale, qui étudient la guerre froide, on nous dit que des discours ont changé l'histoire. Ils sont enseignés comme des dates clés. Ich bin ein Berliner, le discours de Brazzaville, le discours de Bayeux.
Je vous ai compris.
Tout ça, ce ne sont que des mots. Ce sont que des mots et on le retient comme des dates clés. Donc, si vous connaissez les codes de l'oral, si vous arrivez à les maîtriser, bah, à votre tour, vous pouvez marquer l'histoire ou à une échelle un peu plus personnelle, votre entreprise, votre vie personnelle.
On est bien d'accord que chez ces hommes que vous avez cités, en l'occurrence, c'était inné. On n'était pas dans une société d'hypercommunication. Vous me direz aussi que les dictateurs ont réussi
ce n'est pas totalement
à séduire
inné,
des
en
foules,
réalité.
Oui.
Parce que ils sont nés à une époque où, justement, les enseignements de rhétorique étaient peut-être aussi un peu plus présents.
Ah oui.
La rhétorique était une épreuve qui était enseignée au bac, avant la dissertation, jusqu'en 1902. Alors Malraux était un peu trop vieux, mais il a baigné, j'en suis quasiment sûr et certain, dans cette éducation et connaissait les étapes d'un discours. Ça me paraît évident.
Charles Laroche est avec nous à l'occasion de la parution aujourd'hui de son ouvrage chez les éditions First, Briller à l'oral pour les nuls. Avocat et coach en prise de parole, on va revenir sur quelques conseils que vous distillez dans cet ouvrage de près de 400 pages. À tout de suite sur Europe 1 avec vous, Gélie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, le tour de la question sur l'éloquence avec Charles Laroche, qui est avocat et qui est auteur de Briller à l'oral pour les nuls. Le livre paraît aujourd'hui aux éditions First. Et une phrase qu'on peut lire dans ce livre,
oui,
convaincre, c'est chercher un résultat. Et l'éloquence, c'est savoir convaincre par la parole.
Exactement.
Ben voilà, Charles Laroche, une bonne citation, parce que il faut que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement avec un certain nombre de conseils que vous distillez dans cet ouvrage. En vous parlant, je pense à Thibaut Normand sur l'hashtag Europe 1 qui nous salue et qui parle d'échanges passionnants sur l'art de l'éloquence. Donc merci à vous, Charles Laroche. Convaincre par la parole, la prise de parole en public, c'est très stimulant avant, pour moi, le plus gros rendez-vous de la journée. On a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui partent travailler. Certains peut-être vont et se rendent en entretien d'embauche. Et j'aimerais que vous leur donniez un petit peu quelques conseils pour se mettre dans les bonnes conditions, parce que c'est aussi une grande partie de votre livre. 10 conseils pour vous préparer pour le grand jour. Comment on commence sa journée quand on a un entretien du genre, Charles Laroche ?
Alors déjà, on dort bien la veille. Ça peut paraître
anodin. En général, on dort mal quand même.
Voilà, on dort mal, effectivement. Mais ça fait partie des choses qui sont plus faciles à dire qu'à faire. Mm. On fait attention à son apparence. Mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Mm. Comme pour n'importe quelle réunion, donc on entre avec son petit capital sympathie, on se met à sourire et on s'installe dans sa chaise. On s'installe dans le premier tiers. C'est-à-dire, pour se tenir droit, on se met dans le premier tiers de la chaise.
Oui.
On reste droit et on peut regarder son examinateur.
Bien. Première chose, pardon, on serre la main éventuellement et on regarde dans les yeux.
Exactement. Hein. Alors, comment on fait pour regarder dans les yeux? Un petit conseil.
Comme Emmanuel Macron. Ah, voilà. Il regarde tous les gens dont il serre la main dans les yeux.
Les gens qui vous serrent la main sans regarder, ça ne sert à rien. Oui.
Un petit conseil pour regarder dans les yeux pour les personnes qui sont intimidées. On va vous apprendre à tricher. Il y a un point neutre qui est situé très exactement au milieu des deux yeux. Si vous regardez la personne en face, vous avez l'impression qu'elle vous fixe du regard. Est-ce que vous avez l'impression que je vous fixe du regard? Voilà.
Ben oui.
Voilà, et
ben
exactement. Et ça, et je ne suis pas perturbé par vos émotions, par vos yeux. Ça permet de fixer quelqu'un. On triche un peu, mais quand c'est un entretien, on peut. Ensuite, on connaît bien son sujet. Et son sujet, dans un entretien d'embauche, c'est simple, c'est nous. Ouais. Vous pouvez parler de vous-même avec emphase, avec émotion et essayer de jouer sur votre voix, jouer sur le silence. Vous êtes stressé, c'est normal. Ne parlez pas trop vite. Oui. Laissez une part de confiance s'installer avec votre examinateur, enfin votre futur employeur.
Ou examinateur.
Et, et ça marche aussi pour un oral d'examen. Mmh. Et là, vous pouvez réussir à exposer votre expérience. Et enfin, dernier point, préparez-vous aux questions pièges.
Ah oui, il faut anticiper, ça c'est très important. Hein.
L'argumentation, c'est la clé. Ouais. Et quand on est dans un entretien d'embauche, on se vend, on est son propre argument. Et donc, il faut connaître ses points faibles. Un trou dans un CV, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année, où vous étiez. Et donc là, vous pouvez tout de suite avoir votre propre récit, votre propre storytelling, si vous voulez, pour réussir à convaincre.
Pour n'être pas pris au dépourvu. Ça, c'est très important. Pour un grand oral, pour un examen, pour un entretien d'embauche, vous parlez du test du miroir. Alors ça, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça permet de nous libérer de voir les expressions de notre visage et de voir quel reflet, finalement, on envoie aux examinateurs?
Il faut tester, il faut se tester. Et pour ça, effectivement, avoir un ami, un miroir, quand on n'a pas d'amis, ou un compagnon, une épouse, pour vous dire ce qui ne va pas en sincérité. Et franchement, c'est très utile. Un miroir, ça va vous permettre aussi de voir ce qui s'appelle les gestes parasites. C'est tous les moments où on va se balancer, on va avoir la main dans les cheveux, on va commencer à se mettre la main sur le menton parce qu'on est stressé. Et regardez les autres orateurs. Ça aussi, ça peut être un test. Le mieux, c'est de voir des orateurs, des bons comme des mauvais. Et si vous revoyez, par exemple, le débat de l'entre-deux tours, vous pouvez voir tout ce qu'il ne faut pas faire sur le stress, les gestes d'autocontact, les moments où on prend ses petits dossiers pour les ranger. Tout ça, ça trahit un stress. Et une fois que vous... C'est ça qui est merveilleux, c'est quand vous avez conscience de vos gestes parasites, vous arrivez à les éliminer.
L'humour et le sourire, ça ne fait pas de mal. Hein. On n'oublie ça pas non plus d'être pas totalement sclérosé.
Exactement. Il y a un coefficient de sympathie qui joue dans un entretien. Votre sourire, d'une manière générale, toute l'expression corporelle que vous allez avoir va être aussi importante pour embaucher quelqu'un. On sait que quelqu'un de souriant aura plus de chances d'être embauché que quelqu'un qui n'est pas souriant. Mmh. Et l'humour, effectivement, ça peut être important. Bien entendu, il y a des circonstances qui s'y prêtent sans doute un peu moins. Il faut savoir choisir son moment. Mais parfois, un petit brin d'humour ne fait pas de mal.
Voilà, quelques conseils pour vous. Une petite pause. On revient avec Charles Haroche pour parler de cet art oratoire, de tous ces jeunes que vous formez aujourd'hui, de tous ces jeunes qui se rendent dans des concours d'éloquence, dans des joutes verbales. Vous pouvez y assister. C'est fabuleux. C'est très formateur aussi. D'ailleurs, vous nous engagez à aller au théâtre, à aller au cinéma parce qu'on est dans un échange perpétuel de paroles. Ça, c'est très important. Ça nous imprègne au fond. À tout de suite sur Europe. Europe 1 jusqu'à 11h.
Europe 1.
Allez, on vous retrouve Wendy Bouchard avec votre invité, l'avocat Charles Haroche, qui forme des jeunes à l'art de l'éloquence, et pas seulement en France, en Égypte aussi.
Vous revenez d'Égypte, Charles Haroche.
Exactement, j'ai eu la chance avec ma femme que j'ai rencontrée dans un concours d'éloquence, donc c'est quand même la preuve qu'on peut faire des belles rencontres.
Même
la plus belle des rencontres pour moi, donc c'est quand même important. On est allé en Égypte pour rencontrer l'Institut français à Alexandrie et pour former 12 élèves, 9 filles et 3 garçons aux arts oratoires en français. Et c'était une rencontre extraordinaire parce qu'elle nous a aussi permis de voir la beauté de notre langue avec des étudiants qui avaient une maîtrise exceptionnelle du français et qui connaissaient tout. Qui connaissaient tout de la moindre figure de style qu'un étudiant français a mis dans un coin de sa tête comme le chiasme, l'épanadiplose. C'était incroyable et surtout... La parole, là aussi, poursuit un but parce que c'était l'occasion pour ces filles de parler du droit des femmes, des droits des femmes en Égypte. Et c'était vraiment bouleversant de pouvoir voir des femmes se dresser et dire devant une assemblée, j'ai des droits et je me bats pour ça.
Mais comment on forme alors oratoire et en combien de temps, Charles Haroche? En combien de temps on peut avoir ces instruments?
Alors, cette formation a duré 20 heures et en général, les formations durent ce laps de temps.
Et c'est gratuit?
C'est gratuit. C'est totalement gratuit. Les formations à Eloquentia sont gratuites. Mmh. L'idée est la suivante. C'est vous avez 6 semaines où tous les samedis, vous venez de 9h à 16h, à 18h, pardon, suivre des enseignements de rhétorique classique, de théâtre pour vous apprendre à gérer votre corps, de gestion de la voix, d'entretien d'embauche et de slam, parce que la musicalité est très importante dans un discours. Et petit à petit, avec un petit travail sur la confiance en soi, puis des notions théoriques, pour notre part, on commence par l'argumentation, puis le travail sur la conviction, la structure, le style, et enfin, on se lance. C'est un travail en 6 semaines qui permet des métamorphoses incroyables avec des élèves timides qui deviennent très formidables.
Donc là, c'est quand même à destination des jeunes, des plus jeunes. Hein.
C'est à destination des jeunes de l'université, enfin qui sont à l'université de Saint-Denis, de Nanterre, à Marseille, bientôt à Limoges, Bordeaux, etc.
Eloquentia. Jean-Seb Desmarais sur le hashtag Europe 1 nous dit « Les exposés oraux devant la classe existent depuis longtemps et dès le primaire avec notamment les fameuses récitations de poésie. » Il ajoute « Souvenir ».
Ça existe.
C'est pas tout à fait pareil pour vous ?
Ça existe, mais soyons parfaitement honnêtes. Tout d'abord, ce sont des récitations de cours. Les exposés sur les dinosaures se limitent à dire que dans le Crétacé supérieur, les dinosaures, blablabla. Et ce ne sont pas des oraux qui parlent, ce sont pas des exposés qui parlent d'émotions.
Parce qu'on est trop petit, c'est normal.
On est petit et encore, quand vous êtes petit, vous arrivez à savoir ce qui peut vous émouvoir assez facilement.
Mais dans l'adresse publique, je veux dire.
Dans l'adresse petite, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer.
Ah oui ?
J'en suis vraiment persuadé. Les Anglais commencent bien à 5 ans.
Oui, c'est vrai.
Pourquoi les Français n'en feraient pas autant ? Et c'est vrai que les professeurs, certains sont très bien formés. J'ai eu des professeurs excellents. Et c'est sans doute parce que j'ai eu des très bons professeurs de français qu'aujourd'hui, je suis touché par l'oratoire. Mais souvent, ne reprennent pas les élèves quand ils parlent avec une voix monotone devant un public pour dire « Les dinosaures au Crétacé supérieur ont… » etc. Donc, il faut aussi apprendre à gérer sa voix. Il n'y a pas d'âge pour commencer.
Alors, dans ce livre qui paraît aujourd'hui « Briller à l'oral pour les nuls », il y a moi un petit encadré qui m'a fait sourire parce que vous parlez des exemples parlants que peuvent mettre en avant les hommes politiques, par exemple. Et alors, il y a tout le laïus sur la grand-mère. Et ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle en pense ? Et donc, vous citez Jacques Chirac, 86, « Comme disait ma grand-mère quand j'étais petit, à sotte question, point de réponse. » Martine Aubry, en 2011, « Comme disait ma grand-mère, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. » Christophe Castaner, « Comme disait ma grand-mère, c'était mieux avant. » Pourquoi on fait appel comme ça à une part, alors peut-être trichée, d'intime ? C'est justement pour…
Il y a un côté, c'est la grand-mère patrie, si vous voulez. Il y a un côté d'identification et il y a toujours l'idée qu'il y a une petite sagesse, le bon sens populaire derrière la figure de la grand-mère. Aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que c'est la figure du père. Donc on voit qu'il y a deux styles un petit peu différents. C'est comme mon père disait, et en général, il y a une citation qui est complètement absurde et qu'un grand-père ne dirait jamais. Et sur la grand-mère, pour revenir là-dessus, c'est un moyen de se rendre sympathique parce que ce sont souvent les plus technocrates, les plus sortis de l'ENA qui rappellent qu'eux aussi, ils ont une famille et qu'ils sont gentils.
Alors nous, à la radio, on a une bête noire. On peut les laisser vivre, mais ce sont les silences. Les silences sont très importants dans un discours aussi, comme la ponctuation. C'est une ponctuation, un silence.
Et oui, je suis désolé pour la radio, mais oui, effectivement, les silences, c'est très important. Les silences ont deux utilités. Premièrement, ça permet à votre auditoire de réfléchir. La parole, elle est à moitié pour celui qui parle, mais elle est aussi pour l'autre moitié à celui qui écoute. Il a besoin de mémoriser, d'emmagasiner les informations, donc les silences vont être très utiles. Et c'est aussi important pour vous parce que ça vous permet de respirer, ça vous permet aussi de reformuler vos idées dans votre tête et de ne pas vous laisser presser par le temps. Parfois, parler en public, c'est aussi un travail de sélection, moins dire pour mieux le dire.
Vous avez vu ce qu'a fait un silence hein? C'est bizarre.
Moi, quand j'ai commencé à Europe 1, on m'avait expliqué pourquoi il ne fallait pas faire de silence.
Pourquoi?
Parce qu'il faut imaginer, si on fait un long silence, enfin, je ne sais pas, quelques secondes, la personne qui est en train de chercher Europe 1 sur son transistor, à l'époque, eh bien, il passe parce qu'il il ne se passe rien sur Europe 1, donc il va plus loin, il tombe sur une autre radio et il découvre.
C'est des gens pressés, voilà. Parce que regardez François Chalet, Denise Glaser, il parlait beaucoup, mais il essaie quand même... des silences.
Ah mais Denise Glaser,
elle était
à la télé.
Oui.
Elle avait le support de l'image. Là, on sait qu'elle est encore là.
Ouais, mais du coup, quand j'entends les journalistes à la radio, c'est un travail extraordinaire sur la voix et l'articulation. Et ça, pour le coup, j'aimerais bien avoir vos conseils à vous. C'est comment vous faites pour travailler votre voix, pour en prendre soin. Nous, on a des techniques, c'est la respiration abdominale. C'est faire partir la voix du ventre et pas du haut du torse. Mais est-ce que vous, tiens, vous avez des conseils à donner là-dessus ?
Aucun,
pas du tout. Non, c'est
on
un peu...
Pas de voix, non, on s'en occupe pas.
Sans doute pas assez, mais... Non, c'est un peu comme ça, hein. Naturel. Mais vous allez nous donner des conseils, on en a forcément
oui,
besoin.
C'est plutôt vous qui avez des conseils.
Merci Charles Laroche. Et en attendant, des conseils à diffuser pour chacun. Briller à l'oral pour les nuls aux éditions First, ça paraît aujourd'hui. Et c'est très intéressant à l'image de ce que vous avez entendu pendant une heure. Merci chers amis, Charlotte Arrigoni, Jean-François Bussière, Manuel Calma. On se retrouve, et Chanel Petit, on se retrouve demain, 9h.
Au revoir.
9h-11h.
Au revoir, à demain. C'était Wendy Bouchard.